Bonsoir. Le président Joseph Kabila a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies à New York que la RDC est un pays debout où la paix retrouvée se consolide chaque jour. Il a ajouté que l'économie de la RDC est l'une des plus dynamiques du continent. Quelle lecture faire du discours du chef de l'État? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Et pour en débattre, je reçois honorable Steve Mbikai, député national de l'opposition et président national du Parti travailliste. Il est aussi porte-parole de la Coalition pour le vrai dialogue. Honorable Mbikai, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est l'honorable François Nzekouye. Il est député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Lui est déjà en ligne. C'est le professeur Alphonse Mahindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani en province orientale. Professeur Mahindo, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La République démocratique du Congo est un pays debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour. Déclaration du président Joseph Kabila lors de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président Kabila a aussi évoqué d'autres questions nationales. On l'écoute dans cet extrait choisi par Guy Maté.
Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage, un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent, avec un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine de plus près d'une décennie et de réserves d'échange en constante augmentation. Un pays en pleine reconstruction où routes, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses sont construites en nombre et à un rythme sans précédent. Sur le plan sécuritaire, le dialogue politique, la diplomatie et l'action militaire ont été judicieusement combinés afin de nous rapprocher sûrement de l'objectif que nous nous sommes fixés, d'éradiquer les forces négatives de notre territoire, contribuant ainsi à ramener la paix dans l'est de notre pays, comme avec le pays limitrophe.
Voilà. Honorable Steve Mbikai, vous êtes député national de l'opposition et président national du Parti travailliste. Vous êtes aussi porte-parole de la Coalition pour le vrai dialogue. Nous allons commencer d'abord par un petit commentaire sur la manière dont vous avez perçu les discours du président Kabila de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous abordons deux aspects, les aspects socio-économiques et sécuritaires et l'aspect politique. Je signale déjà à nos auditeurs et internautes que l'aspect politique fera l'objet de l'émission de demain. Honorable Mbikai, de façon générale, comment vous avez perçu le discours du président Kabila?
De façon générale, je trouvais que c'était une belle dissertation. Et je félicite ceux qui l'ont rédigé. Mais le fond, à mon humble avis, était creux. Parce que ce que le président de la République a déclaré était tout à fait à côté. Quand il présente notre pays comme un pays étant debout, un pays dont il vante la croissance, cette croissance dont on parle, que j'estime être très très théorique. Et tout à l'heure, je crois que je vais entrer dans le fond de la vie du sujet pour démontrer que le président de la République n'a pratiquement pas dit la vérité sur la situation réelle de notre pays. Comme mon collègue Zécuyer vient d'arriver, peut-être que lui a trouvé quelque chose de bon dans son discours, eh bien, quand il l'aura dit, je pourrais répliquer.
Voilà, donc pour vous, de façon générale, c'est une belle dissertation, mais au fond, creux. Professeur Mahindo, juste un commentaire de façon générale. Comment avez-vous perçu le discours du président Kabila?
Oui, merci beaucoup, monsieur. Je pense que ce discours, si on parle en termes d'analyse politique, je pense que c'est un discours qui répond bien à une logique d'un tenant de pouvoir, c'est-à-dire c'est un discours qui vise à légitimer, à justifier une action politique en se démarquant du passé et en essayant de se projeter dans le futur. En fait, il essaie de montrer par rapport au présent, c'est un discours de conviction pour dire voilà, j'ai travaillé avec ardeur, j'ai fait des réalisations et par rapport au passé, il montre bien que le pays allait très 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 mal, que c'est lui qui change tout. Et que avec lui, ça va encore mieux, ce sera encore mieux pour demain. Ça, c'est un discours vraiment d'un homme de pouvoir, d'un gouvernant. Alors, s'il était dans l'opposition, c'est ce qu'on va entendre, je crois que ça commence déjà là, il tiendrait un autre discours. Là, ce serait plus un discours de conviction par rapport au présent, de progrès par rapport au passé et d'optimisme par rapport au futur. Ça serait un autre discours. Là, on aurait un discours d'affliction par rapport au présent pour dire non, ça va mal, rien n'est pas, ça se passe correctement, on est dans l'immobilisme et pas des résultats. Les résultats qu'on a là sont des trucs en trompe-l'œil. Et par rapport au passé, il tiendrait un autre discours, ce serait invitation au changement, il faut changer.
Voilà.
On n'est pas tourné vers le passé. Et par rapport au futur, là, on verrait un discours de dramatisation pour dire là, ça va trop mal, mais ça peut changer si nous, on vient aux affaires. Voilà, je pense que on est vraiment bien dans une logique de tenant du pouvoir qui tient un discours, alors s'il était ailleurs, il ne tiendrait pas
professeur.
Ce discours-là.
Merci, professeur. Nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Honorable Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Pour vous, de façon générale, avant que l'on aborde les aspects socio-économiques et sécuritaires pour aujourd'hui et politiques, ça sera l'objet de l'émission de demain, de façon générale, comment avez-vous perçu le discours du président Kabila?
Et comme la plupart des personnes qui ont réagi à ces discours, en Afrique comme ailleurs, au Congo, comme dans les pays voisins, tout le monde a applaudi ces discours et applaudir au propre et au figuré, comme dans la salle du reste. Ce discours a été applaudi à plus d'un titre. D'abord, parce que le président Kabila a été, je crois, le seul président africain qui a rappelé à la communauté des nations la place de l'Afrique aujourd'hui dans les concerts de l'humanité. Et il a plaidé pour que l'Afrique soit représentée au Conseil de sécurité parce qu'il est inadmissible qu'un continent qui a les 6/10 des pays les plus dynamiques au monde, j'ai dit bien, ne soit pas représenté au Conseil de sécurité. Un pays qui a les deuxièmes poumons de l'humanité en matière de climat, or nous savons aujourd'hui que le climat est un des enjeux majeurs de l'humanité, qui va pouvoir régler les problèmes de l'humanité, ne soit pas assis à la table des négociations de l'avenir de l'humanité. Un pays sur lequel l'humanité compte en termes d'eau douce, en termes de réserves naturelles, en termes miniers comme pétroliers, ne soit pas sur la table du Conseil de sécurité.
Et donc, voilà, brièvement, c'était un discours à la hauteur de la grandeur de la RDC.
Absolument, c'est un discours à la hauteur de la grandeur de la RDC. J'y suis entré pendant que mon collègue Steve Bikai disait que c'est un discours de mensonge. Écoutez,
alors, honorable Nzekouye, oui. Parce que vous en parlez, entrons carrément dans le vif. Le président Kabila dit que la RDC est un pays debout, un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent, avec un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine depuis près d'une décennie, des réserves d'échange en constante augmentation. Honorable Steve Mbikai dit que ce n'est pas vrai.
Oui, et comme l'a dit l'analyste qui venait d'intervenir après Steve Mbikai, Steve Mbikai n'est pas qu'un opposant, qui ne voit que tout en noir là où tout est blanc. C'est normal, et c'est accordé. Et Steve Mbikai dirait que le verre est à moitié vide ou totalement vide, pourtant que le verre est en train de se remplir. Mais quand on parle des faits, c'est cela que l'on doit se rendre compte de l'évolution de la réalité. En 2003, les produits intérieurs bruts de la RDC étaient de 16,74 milliards. Aujourd'hui, il est à 44,83 milliards. Ce sont des faits, ce ne sont pas de l'imagination. Une telle progression, donc du double de la production intérieure en 10 ans, ce ne se passe pas partout au monde. C'est une réalité. Le PIB par habitant a doublé pratiquement de 297,6 en 2003, il est à 538,8. Ça reste peu, mais c'est le double tout de même. Si nous pouvons, en 10 ans, arriver aux mêmes performances, la RDC est en train d'avancer. On ne peut pas les nier aujourd'hui. Le président Kabila vous a dit, il nous a dit à nous tous, parce que Steve et moi, nous le vivons, que des grands travaux d'infrastructure se passent dans ces pays. Il roule en venant de chez lui à Limité pour venir en ville aujourd'hui en moins de 10 minutes, chose qu'il faisait en une heure à l'époque. Il ne peut pas les nier. Quand Kabila vous dit que nous avons construit des écoles par milliers, et je me rappelle que le Premier ministre Matata a été félicité à Doha par l'UNESCO, et la RDC a été prise comme modèle en matière d'éducation en termes d'évolution récente, il n'y a que nos Congolais, nos compatriotes qui trouvent que rien n'a été fait, comme quoi on n'est jamais prophète ce soir. Quand Kabila vous dit que dans le domaine de la santé, il y a des choses qui ont été faites, j'ai été avec l'UNICEF quand on a réceptionné les matériels médicaux pour la partie est de la République du Congo. L'UNICEF a dit que c'est la première fois que cela s'est fait avec des fonds propres à un État dans l'Afrique centrale depuis les indépendances, qu'un pays dépense plus de 100 millions de dollars pour pouvoir acheter des équipements médicaux pour ses hôpitaux. Donc des choses sont en train de se faire, mais il est clair que nous venons de loin, et l'analyste l'a dit, que Kabila a dit qu'il légitime le fait que par le passé, nous étions dans une situation. C'est une vérité, ce n'est pas parce qu'il est président qu'il le dit, ce sont des faits, nous venons d'un gouffre, nous sommes en train de nous relever, il faut les reconnaître, tout en disant qu'il reste encore beaucoup à faire. On doit au moins reconnaître ce qui est déjà fait.
Honorable Ndekouye, il y a deux auditeurs pour vous, Alain Ben et Bordeaux, qui demandent est-ce que le président Kabila pourrait tenir le même discours devant les enseignants, les fonctionnaires de l'État et devant ces 95% des chômeurs qu'on voit partout au pays. Hubert qui est dit, un autre internaute dit, si l'économie est stable, les Congolais mangent bien combien de fois par jour, et le panier de la ménagère d'un Congolais est en dessous d'un dollar par jour, donc ce n'est pas vrai.
Non, je crois qu'il dira exactement le même discours devant les enseignants. Parce que on doit savoir que en moins de 3 ans, on a mécanisé plus de 100 000 enseignants. Des gens qui n'avaient aucun salaire, aujourd'hui ils en ont. Dites à cet enseignant qui ne touchait rien il y a 3 ans et qui chaque mois, il lui arrive d'avoir ne fût-ce que 100 dollars par mois, cet enseignant-là peut se dire, je suis mieux qu'avant. Est-ce qu'il est satisfait? Non. Et encore que personne n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il pose la question, est-ce que le Congolais mange combien de fois par jour? Il y en a qui mangent une fois par jour, d'autres qui mangent deux fois par jour, d'autres mangent trois fois par jour. Même si il est vrai que beaucoup sont encore dans la précarité. Mais la précarité va se régler de quelle manière? Ça ne va pas se régler par le fait qu'on donne du pain à chaque citoyen. Merci. C'est par le fait qu'on met des infrastructures qui permettent à chaque citoyen développe une activité économique et puisse arriver à s'en sortir.
Merci. Honorable Mbikaï, vous parlez déjà de mensonges, de fausseté, d'un discours qui ne cadrait pas avec la réalité.
Oui, heureusement que l'officier qui a parlé tout à l'heure, il a compris que le président Kabila est allé faire sa propagande à l'ONU. Sur le plan de fait, parce qu'il parle de la croissance, il parle de la production. J'ai parlé tout à l'heure Monsieur Ramzi Kouyé, qui est bien documenté, qui a tout un tas de documents avec lui, va nous faire voir un peu, année par année, comment évolue la production du pays, notamment combien de tonnes de riz on a produit l'année passée, cette année, l'année avant, tonnes de sucre, tout ça. Et quand on dit qu'il y a croissance, il y a production, cela sous-entend qu'il y a des mains pour travailler. Et c'est-à-dire que le taux de chômage est toujours inversement proportionnel à la croissance. C'est-à-dire, quand il y a croissance, on a besoin de gens pour travailler, le chômage diminue. Il va nous dire tout à l'heure combien d'emplois le président Kabila a créé depuis qu'il est au pouvoir, parce qu'il est à la porte de sortie. Il nous dit qu'on est en train d'améliorer, mais il a fait déjà que, si c'est 13 ans au pouvoir, il aura déjà pu bien améliorer. Un pays qu'il va laisser sans route. Vous savez, pour partir, par exemple, à Lukolela, c'est au Congo, j'ai dû prendre Congo-Brazzaville, passer par Oyo, avant d'arriver, n'est-ce pas, au Congo, en RDC. Et un pays sans chemin de fer qui fonctionne. Le fleuve là n'est pas du tout exploité. Un pays qui exporte tout à l'état brut. Il va vous parler du cuivre, parler des grubes et de tout ça. Tout ça est exploité à l'état brut. Avec quelle valeur ajoutée? Pourquoi ça? Parce qu'en matière de savoir, nous sommes très pauvres. Aujourd'hui, les pays qui se développent sont les pays qui investissent dans le savoir, dans l'éducation, parce que la richesse, ce n'est pas avoir du cuivre, avoir de l'or, avoir des grumes. La richesse, c'est avoir un savoir et un savoir-faire, parce que nous avons des pays comme la Corée, le Japon, qui n'ont pas de ressources naturelles, mais qui ont la technologie, qui ont une vie très 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 bonne, ce qui n'est pas le cas ici. Or, en matière d'enseignement, la technologie. Aujourd'hui, quand vous partez en polytechnique, il n'y a pas de professeur. On t'a fermé. Il y a combien de professeurs en polytechnique? Il y a combien d'étudiants qui font la chimie, la physique? Ce sont là des matières qui font développer un pays en matière, n'est-ce pas, de la vie.
Honorable Mbikaï, oui. L'honorable Nzekoui a tout à l'heure dit, selon lui, qu'il y a des choses qui se font et que le pays était dans un gouffre très profond et que vous ne voyez le verre qu'à moitié vide et cela friserait même de la mauvaise foi.
Nous parlons des faits et je pense qu'il va réagir. Quelle économie qui est debout? Une économie qui est totalement entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, les Congolais sont de plus en plus pauvres. Toute l'économie, tous les capitaux sont entre les mains des dirigeants du pays et des étrangers. Est-ce qu'on peut me citer ici 10 Congolais qui sont riches, parmi les hommes d'affaires? Et non, on est le seul pays où la richesse, n'est-ce pas, appartient aux étrangers. Et vous allez, par exemple, les banques, presque toutes, c'est pour les étrangers. Même les garages, le transport, la télécommunication, l'importation. Un jour, ils pourront nous bloquer. Et maintenant, pour nous, on ne paie même pas la dette intérieure. Les Congolais qui font les affaires, qui ont fourni, n'est-ce pas, à l'État, ne sont pas payés. Ils tombent en faillite et le chômage augmente. Je pense qu'il va nous dire une part de taux de change, enfin, d'inflation qui est stable. Souvent, nous confondons ici la parité entre le dollar et les francs congolais pour dire qu'il n'y a pas d'inflation. Non, mais il y a inflation, bien que le taux d'échange est le même. Mais les prix galopent en dollars parce qu'il y a moins de biens et beaucoup d'argent sur le marché.
Alors, honorable Nzekoui a également...
Par rapport maintenant, attendez, parce qu'ils ont parlé de la croissance. Mais, cher ami, d'après les statistiques de 2013... Les pays par habitant, nous sommes le dernier. Nous sommes le dernier. Parce que nous avons combien? 450 dollars par an. On est dernier avec le Niger, 413. Ok? Par contre, le Congo, Brazzaville, est loin de nous. Avec environ, je crois que 2000, quelque chose comme ça. Et quand on prend aussi l'IDH, eh bien, on tient la queue avec les Burundis.
L'indice de développement humain.
Or, dans l'IDH, oui, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a le PIB par habitant.
Merci, honorable. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Alphonse Mahindo, on est là de plein pied dans le débat. Professeur, sur le plan socio-économique, comment vous analysez le discours du président de la République? Vous avez suivi les honorables Mbikaï et Nzekouye.
Oui, ben merci beaucoup. Je les ai entendus tous les deux. Ça me rappelle bien ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction dans mon commentaire général. En fait, il y a des évolutions. On peut pas nier des évolutions notables qu'on a observées dans le pays en ce qui concerne la stabilisation des variables macroéconomiques dans le pays, la stabilité monétaire, la maîtrise du taux d'inflation, la croissance économique. C'est des éléments qu'on ne peut pas nier qui sont là. Alors maintenant, la vérité aussi, c'est que cette cette croissance économique qu'on vante tant, cette croissance économique qui est, j'allais dire, qui n'est pas véritablement structurelle et qui ne va pas durer dans le temps. Parce que ça concerne quoi? Ça concerne essentiellement l'économie des rentes, c'est l'extraction minière et autres. Donc on n'a pas là dans l'industrialisation, on n'a pas là dans les services qui peuvent être des activités durables. Donc à partir du moment où c'est fait donc sur une économie d'extraction simplement, c'est pas très 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 durable. Et cette croissance en question, elle est liée, si vous lisez les travaux de Wallet et de Westbrook, qui ont publié en 2011, c'est lié essentiellement pour 6 pays, à savoir le Nigeria, le Soudan, l'Angola, la Zambie, la RDC et nous, et donc nous la RDC et le Niger, c'est lié entre autres par l'augmentation croissante des investissements directs à l'étranger de la Chine, qui a pratiquement quadruplé entre 2000 et 2011, qui est passé donc de 2,4 milliards à presque 9 milliards de dollars. Alors, ceci dit, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu un leurre aussi, parce que notre pays, si on regarde 2012, 2013 et 2014, en ce qui concerne l'indice de développement humain qui est publié chaque année par le PNUD, cette année donc qui est sortie là, le dernier rapport, nous avons gagné une place, nous sommes 186e sur 187, juste devant le Niger, voyez-vous. Et donc l'année d'avant, nous étions donc en 2013, nous étions donc ex aequo avec le Niger, donc 186 sur 186 États. Et donc même les pays comme la République centrafricaine, qui est notre voisin, qui est aussi malmené qui est rongé par des guerres, se trouvent devant nous en termes de développement humain. Voyez-vous, donc on est là, si vous voulez, en termes de réalité, on est bien loin du compte. Alors si je prends les statistiques officielles du gouvernement congolais, parce qu'on peut toujours contester en disant, bon, ces institutions internationales peuvent avoir d'autres agendas. Alors si je prends un document officiel qui a été publié par les services de la primature, donc le premier ministre Matata Ponyo, en mars 2014 de cette année, il dit que ce document dit qu'il y a le taux de pauvreté dans les milieux ruraux dans notre pays s'élève à 76%. On est bien loin de l'objectif du millénaire, donc qui consiste à éradiquer la pauvreté. 76% du taux de pauvreté, c'est immense. Et le même document du premier ministre, qui date toujours du mois de mars, parle de 80% de taux de chômage. Ça, c'est des statistiques officielles du gouvernement congolais. Donc on voit là que la réalité, elle est beaucoup plus... elle doit être nuancée, en fait. Il y a des avancées, mais ça doit être nuancé. Parce que quand on regarde aussi dans les statistiques de l'UNICEF de 2012, il y aurait à peu près 37 millions de Congolais, donc notamment ceux qui vivent dans les milieux ruraux, qui sont exposés aux maladies hydriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de la moitié de notre population. Merci. Est encore à des problèmes d'accès à l'eau potable. Donc on a là des véritables situations un peu paradoxales où on a des taux de croissance élevés.
Merci,
et qui peuvent aussi, ça s'explique en partie. Parce que notre croissance démographique est très élevée aussi. Il y a une espèce de péréquation ou d'annulation des effets de la croissance économique par la croissance démographique. Mais également la redistribution. Alors ça c'est une autre question.
Merci professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Nous allons évoquer avec vous l'aspect redistribution. Honorable Nzekouye, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient d'Afrique du Sud.
Gérard Mwambangolo, depuis Cape Town en Afrique du Sud, le Congo n'est pas debout, comme le président l'a dit autrefois aux tribunes de l'ONU. Lorsque nous entrons dans le pays, la misère bat record. Lorsqu'on traverse les Bandundu, les Dekassai, les Maniema, la misère est à haut niveau, l'accès à l'eau potable ainsi qu'à l'électricité, c'est un rêve pour la population. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que le pays est debout?
J'ajoute la réaction de Munguromo Jean-Baptiste, qui nous écrit de Mahagui en Ituri, qui dit « Le discours du président devant l'Assemblée générale des Nations unies est purement politique et ne traduit pas forcément la réalité sur terrain. C'est trop prétentieux de parler d'un Congo debout sur le plan sécuritaire et économique. » Honorable Nzekoué.
Oui, je crois que c'est que tous les auditeurs, y compris les analystes et même mon collègue, doivent retenir, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait. Cela en fait la grande question. Est-ce que rien n'est fait?
ou on se contente de voir la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui sans regarder les améliorations? Est-ce que si il y a eu statu quo, la situation ne serait pas pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Et est-ce qu'il n'y a pas espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, tenant compte de ce qui est fait aujourd'hui? C'est cela en fait la grande question. Quand le chef de l'État vous dit que la RDC est debout, c'est vrai que c'est un État qui est debout aujourd'hui sur plusieurs points. Aujourd'hui, nous avons mis fin à la guerre. Vous savez très bien ce que coûte une guerre. Et pendant combien d'années nous avons été en guerre? Depuis 97, jusque l'année dernière, nous étions en guerre, si on ne peut même pas dire en 2014, parce que nous avons continué à nous battre avec les ZADF Nalu.
Sans compter certains groupes armés locaux qui continuent
encore
qui
aujourd'hui. Donc, il faut relativiser les choses tenant compte de la situation réelle de la RDC. Nous n'étions pas un pays normal, nous étions un pays sui generis qui a eu ces conflits qui l'ont mis dans des situations difficiles. Aussi, on doit relativiser les choses en tenant compte de la population congolaise. Quand un pays peut avoir un PIB de 44 milliards de dollars, si c'était le Congo-Brazzaville qui n'a que 2 millions d'habitants ou 4 millions, ce serait une augmentation sensible tenant compte de la faiblesse de la population. La RDC, c'est un pays avec 70 millions d'habitants. Ce n'est pas le Congo-Brazzaville, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas la Guinée équatoriale. Et donc, il faut se dire que la croissance, elle est là, et ceux qui le disent, ce n'est pas les Congolais qui le disent. Et j'ai un rapport qui a été publié par le PNUD, par les Nations Unies, par la Banque mondiale, qui disent effectivement que la RDC est le cinquième pays en termes de croissance économique en Afrique devant le Rwanda et devant d'autres pays
même
qui étaient
si
en avance.
Même si le Congolais dit ne pas le ressentir
c'est
dans
ce
son assiette.
Je suis d'accord avec eux qu'ils ne le ressentent encore pas dans leur assiette parce qu'effectivement nous avons besoin d'une croissance à deux chiffres pour que ça se ressente tenant compte de la population congolaise. Mais on doit reconnaître au gouvernement de la République et au chef de l'État qui vise la vérité, que le Congo d'aujourd'hui est mieux que ce qu'il était quand lui il a pris en main. Et qu'il est mieux encore qu'en 1997, quand Mobutu était parti. C'est une évidence. Quand Steve nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de route, il peut dire qu'il n'y a pas suffisamment de routes. Parce que même les auditeurs qui l'écoutent se disent, c'est pas vrai. En province orientale, il y a des routes qui sont en train d'être construites au Bandundu qu'il a cité aujourd'hui. Vous pouvez quitter Kinshasa, arriver à Kikwit le même jour ou en quelques heures, ce qui n'était pas le cas hier. Est-ce que vraiment les personnes qui sont à Kikwit peuvent être d'accord avec Steve Mikai par rapport à ce qu'il vient d'affirmer? Est-ce que les populations qui vivent à Kasumbalesa ou à Kasenga peuvent dire la même chose que ce que Steve dit aujourd'hui par rapport aux routes au Katanga? Est-ce que l'on peut dire la même chose à Bukavu quand on doit quitter Bukavu pour arriver à Kavumu? Est-ce que c'est la même situation qu'il y a 10 ans? Il y a des choses qui se font. Il parle des chemins de fer où il suit chaque jour que nous avons acheté des locomotives qui sont en train de travailler aujourd'hui. Les populations peuvent quitter Lubumbashi, arriver à Dilolo régulièrement. Ça va s'améliorer. J'ai suivi encore dans le média qu'il y a 10 locomotives neuves qui sont achetées. Les bateaux en termes de fleuves, nous avons les bateaux Kokolo qui a été remis au niveau du fleuve, qui avait fait des années sans pour autant fonctionner. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font, admettons-le, mais disons que ce qui est fait
n'est pas
encore suffisant pour pouvoir satisfaire au bien-être de la population angolaise.
Honorable Mbikaï, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de la province du Bandundu.
C'est Malonga Kubali de Bandunduville. Le président a raison de dire tout cela, car en voyant les réalisations des infrastructures dans le pays et surtout la manière dont les populations se font réaliser d'elles-mêmes leurs chantiers, qui étaient auparavant comme impossibles à faire, aussi pour la fonction publique, presque tous les vieux bâtiments sont réhabilités et il y a même les ajouts. C'est le cas d'ici chez moi à Bandunduville, où plusieurs bâtiments vraiment sont réhabilités, tels que l'état-major commandant, maison de voyage, d'où on peut dire qu'il y a un accroissement économique dans la stabilité.
Honorable Mbikaï,
quand on dit qu'un enfant n'est pas intelligent, on ne veut pas dire qu'il fait 0%. Et tu peux bien faire 10% en français et puis échouer partout, tu es refusé. Ce qu'il dit, ce sont des très petites réalisations. Parce que mon collègue prend prétexte, parce que nous sommes le dernier pratiquement en termes de PIB par habitation, de la démographie. Mais le nombre est une force.
les grandes puissances ont beaucoup, sont surpeuplées quand vous prenez les États-Unis, la Chine et consorts. Mais ils sont des bras pour travailler. Mais chez vous, vous ne savez pas donner du travail aux gens. Vous ne savez pas l'exploiter. Donc ce n'est pas une excuse de dire on est nombreux, c'est pas on est au bas de l'échelle. Au contraire, parce qu'on est nombreux, beaucoup de bras, on aurait pu produire plus. Et puis, quand il dit qu'il y a eu amélioration par rapport à avant, mais c'est faux, parce que tout à l'heure, on a parlé des IDH. Quand on dit que les gens vivent bien, on voit l'indice de développement humain. Or, de ce côté, nous sommes aussi le dernier. Et quand on dit IDH, on voit quoi? L'accès à l'éducation, à sa double qualité, l'éducation classique, mais aussi l'alphabétisation. Il y a la santé, il y a l'espérance de vie, l'alimentation. Le soin de santé. Est-ce qu'il peut me dire aujourd'hui qu'un Congolais moyen peut se faire soigner en Galiema, à Mayemo? Est-ce qu'un fonctionnaire qui vaut 50 000 francs congolais peut payer 20 000 pour se faire soigner? On a construit l'hôpital du cinquantenaire, mais on a importé le personnel. Tout à l'heure, j'ai parlé du manque de savoir et savoir-faire, parce que le niveau d'éducation est en constante baisse dans ces pays. Même si on construit les écoles, mais pour quel contenu? Aujourd'hui, un enfant qui a une forme d'état, souvent ne sait pas écrire, ni lire. Mais quand on compare il y a 10 ans, 15 ans, quand on avait un diplôme, 60%, on était très intelligent à l'école. Donc, ce qui fait que tout ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire ici? Il y a 84% de chômeurs au pays. Et comment est-ce que la richesse est distribuée à la population? Parce que ce n'est pas la voie du travail que chacun peut gagner. C'est ce qui produit le pays, qu'ils me disent. Donc, il y a 84% des personnes qui sont abandonnées à eux-mêmes.
Alors, honorable, puisque le temps...
Et en plus, il a parlé de la guerre, s'il vous plaît.
Voilà, c'est à ce niveau-là...
Qui a importé la guerre? C'est le régime qui a importé la guerre. Le régime dont tu suis le président Kabila qui a importé la guerre. Ce sont eux qui ont amené ici les Rwandais, les Burundais et les autres. Par l'AFDEL, devenu RCD, devenu SNDP...
Alors, le régime... Parce que vous dites que c'est le régime qui a importé la guerre, le président Kabila lui-même dit que grâce à l'action... politique, diplomatique et militaire, la paix et la sécurité sont revenus et sont en train d'être consolidés.
Ils sont obligés, parce qu'ils nous ont importé la guerre aussi. Ils doivent y mettre fin. Et d'ailleurs, à propos, il aurait dû quand même féliciter la communauté internationale qui nous a aidés pour nous en sortir. Seul, on ne pouvait pas. On s'est battu longtemps, on n'a pas pu écarter l'M23. C'est parce qu'on a été appuyé par la communauté internationale. Il pouvait quand même avoir l'élégance de la félicité. Il ne l'a pas fait. Donc, le chef de l'État s'est mis à faire sa propagande, qui ne cadrait pas du tout avec la réalité sur le terrain.
Mais l'honorable Nsekouye a évoqué la fin de la guerre contre le M23. Et tout ça, c'est toujours à mettre pour vous dans le cadre de la propagande.
Mais la fin de la guerre, je peux dire que c'est bon, parce qu'il a aussi contribué. Ben, il n'est pas le seul. Il a fait quelque chose quand même. Mais je vous dis que le président Kabila est dans un système qui a importé la guerre. Il a l'obligation, avant de partir, de nous laisser un pays en paix.
Voilà. Professeur Gabriel Alphonse Maïndo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient du Kassai oriental.
Galvani Placide, en bougement au Kassai oriental. Les discours du président n'ont rien de surprenant, car les gouvernements congolais sont dotés d'un atout potentiel qui consiste à sauver les apparences à l'extérieur tout en donnant une bonne image intérieure qui ne correspond guère à la réalité. Cependant, l'état actuel de la RDC est très relatif selon qu'on aborde un secteur ou un autre. Malheureusement, le peuple congolais a du mal à se retrouver dans tous les discours vantards conçus par les conseillers qui déroutent les chefs de l'État. Le peuple congolais attend des actions concrètes pouvant changer leur situation socio-économique au lieu de discours bon élève pour une bonne consommation extérieure. On ne s'éparpille pas sans s'élaver.
Professeur Maïndo.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais réagir à cette remarque, mais aussi à ce qui a été dit tout à l'heure par les déshonorables. Bon, je pense vous savez qu'il y a plusieurs manières de traiter un problème en politique. Dans l'activité des hommes politiques, on peut traiter un problème soit en essayant de trouver des solutions par la négociation, on peut aussi traiter un problème par la dénégation, c'est-à-dire on nie l'existence d'un problème, où on fait un silence sur ces problèmes-là. Et en l'occurrence ici, quand on dit que le Congo est debout, en fait, on est en train de nier, en fait, c'est que le Congo est en train de sortir peut-être du coma. Il était dans un état comateux. il est en train de se réveiller, mais il n'est pas encore debout. Alors, quand on dit que la guerre est terminée, c'est peut-être parce que on a détruit un des plus grands groupes qui occupait des villes. Mais l'arrière-pays, je veux dire, tout l'intérieur des provinces, il y a toujours les miliciens Ituriko, Bramatata, il y a les FDLR. Les campagnes qui concernent la majorité de nos concitoyens sont toujours infestées des miliciens qui sèment la terreur et la désolation, le nord du Katanga, tout ça partout. Mais et ça, c'est une guerre plus terrible que celle du M23 qui a occupé la ville de Goma et autres. Et là, on a encore d'immenses défis à relever. Il y a du chemin qui a été fait, je l'admets, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui restent à faire. Et pareil pour les infrastructures et les routes. C'est bien de faire des routes dans la capitale ou dans certains chefs-lieux des provinces, mais il faut surtout relier l'ensemble du pays, intégrer l'économie nationale. Alors pour revenir à la question de notre auditeur de tout à l'heure qui disait qu'il y a des apparences. Bon, en fait, comme je l'ai dit en début d'émission, l'homme politique, quand il fait un discours, son discours est destiné, quand il est au pouvoir, est destiné à justifier, à légitimer son action. Alors, le travail politique, le travail de l'homme politique est davantage un travail sur les représentations du réel qu'un travail sur les situations concrètes. Je veux dire quoi ? Je veux dire que l'homme politique, il n'arrive pas toujours à changer les situations concrètes des gens. Et pas souvent d'ailleurs. Et c'est pas seulement pour le Congo. Dans beaucoup d'endroits, vous voyez toutes les difficultés que rencontre François Hollande en France ou d'autres dans d'autres pays. Alors, mais qu'est-ce que fait alors l'homme politique pour faire ça? Il parle plus qu'il n'agit. Il va essayer de vous montrer que les papiers que vous voyez là, qui est blanc, en fait, ce n'est pas vraiment blanc, c'est plutôt beige. Ou ce n'est pas beige, c'est plutôt bleu. En fait, il s'agit de changer notre regard, de transformer notre regard sous les réels, à défaut de pouvoir changer ces réels-là. C'est le travail de l'homme politique en ce moment. Alors, je comprends cette démarche de la part du chef de l'État, parce qu'il ne peut pas tout changer. Et c'est un travail de longue haleine. Alors, il faut, si on veut véritablement faire une bonne comparaison de la situation de notre pays, il ne faut pas prendre une vision, si vous voulez, à très court terme, présent. C'est-à-dire, on commence à partir de 2001. Mais il faut prendre plutôt notre pays depuis l'indépendance. Nous sommes indépendants depuis 60. Quelle était notre situation en 60? Quelle est la situation aujourd'hui? Pouvons-nous dire que nous avons avancé, ou nous avons reculé, ou nous avons stagné? Je pense qu'ici, on est honnête avec nous-mêmes, nous pouvons nous dire que nous n'avons pas avancé par rapport à 60. Par rapport à 60, nous étions quand même très avancés. Nous avions le niveau de certains pays comme le Canada ou l'Afrique du Sud, actuel.
Et donc,
il faut nous situer dans une perspective de longue durée et pas seulement dans une perspective de courte durée pour justifier notre situation actuelle de pouvoir. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ce qui est à ce niveau de débat.
Merci, professeur. Je signale en passant qu'il nous reste au moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Honorable Nzekouye, il y a l'internaute Esamba qui dit les FDLR, ADF Nalu, Mai Mai Katakatanga, LRA, Cobra Matata et plein d'autres groupes armés sont encore là en train de terroriser la population à l'Est. Alors je me demande bien de quel pays le président Kabila a-t-il parlé?
Oui, je crois que les gens doivent avoir l'honnêteté de reconnaître que les M23 et les ADF Nalu étaient la plus grande menace sécuritaire de ces pays. Et personne n'est donné foi à Kabila qu'il arriverait à vaincre ces groupes armés. Aujourd'hui qu'il les a vaincus, on trouve d'autres arguments pour dire rien ne va parce qu'il y a tel groupe ou tel autre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Cobra Matata fait autant de dégâts dans l'Ituri que les M23 faisaient au Nord Kivu? Mais je ne veux pas dire qu'il faut les laisser continuer à circuler. La réforme de l'armée est en cours. Aujourd'hui, on vient de nommer des différents chefs de 18 unités, des secteurs à gauche, à droite. Cela va continuer à s'améliorer comme tout problème. Mais je suis quand même au regret de constater que le professeur qui parle avec nous ici, il parle plus comme un politicien que comme un scientifique. Quand il dit que les politiciens n'ont pas pour mission de changer la société et finalement gérer la société, ça veut dire quoi? Quand un gouvernement prend la décision de dépenser 98 millions de dollars pour pouvoir construire un parc agroalimentaire au Bandundu qui pourrait juguler le problème d'alimentation de toute la ville de Kinshasa, ce n'est pas une décision qui change le vécu quotidien de la population?
Quand le gouvernement dépense 100 millions de dollars pour construire 1000 écoles en une année, ce n'est pas une décision qui change le vécu quotidien de la population. Les enfants qui étudient à la belle étoile, qui vont étudier dans des classes couvertes et sur des bancs acceptables, ça ne change pas. Quand on dépense 100 millions de dollars pour acheter des équipements médicaux que moi j'ai réceptionné, vu, déposé, au moins pour ce qui concerne mon territoire d'origine Rutshuru, où des mamans accouchent dans de meilleures conditions, ce n'est pas changer le vécu quotidien de la population. Je crois qu'il faut quand même qu'on dise les choses comme elles sont et ne pas commencer à relativiser n'importe quoi.
Honorable Mbeka, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Oui, telles qu'elles sont, c'est que sous le régime du président Kabila, le pays ne fait que régresser. Parce qu'il nous parle de paragraphe alimentaire des Bandundu, mais c'est fait avec qui ? Il voit les Sud-Africains. Toujours avec les étrangers. Il nous parle de routes construites. Même pour les ouvriers, les contremaîtres, ils sont importés de la Chine. Quelle honte ! Vous n'avez qu'à voir les routes construites par nous-mêmes. Kabambari et Bongolo, après un an, tout est détruit. Ce que j'ai dit, on manque la conscience, le savoir et le savoir-faire. Est-ce qu'ils ont construit combien d'écoles techniques, parce que et professionnelles? Le Congo est un chantier, un grand chantier, qui a besoin de charpentiers, plombiers, électriciens et consorts. Et on a construit combien d'écoles professionnelles? Aujourd'hui, tout le monde va à l'université, même sans capacité. Déjà avec un diplôme d'État mal obtenu. Ce qui fait que nous manquons le gens pour travailler. Il n'y a pas de savoir. On est en chômage, mais on importe les ouvriers pour travailler sous la route. Et n'est-ce pas une honte, ça? Est-ce qu'il est content, lui, en tant que député, qu'on construit un hôpital pour y travailler? On importe le personnel médical. Pour construire une bâtisse, on importe les ouvriers. N'est-ce pas une honte? Donc, en matière d'éducation, le président Kabila n'a rien fait parce que le niveau a tellement régressé. Eh bien, c'est bien de construire des écoles. Mais pour quel contenu? Est-ce que nos enseignants sont recyclés? La science évolue. Est-ce qu'ils sont recyclés? Et recyclés, ils sont formés.
Alors, en guise de conclusion, donc, pour vous, honorable Mbeka, c'est un discours raté.
Un discours raté, ça c'est une propagande qu'il a faite, d'ailleurs pour ceux qui tout à l'heure a été clair, il a fait une propagande à l'ONU parce que tout ce qu'il a dit n'est pas vrai. Le président Kabila aura fait bientôt 16 ans au pouvoir, la moitié des Mobutu. Il ne doit plus évoquer le passé pour justifier le chef d'aujourd'hui.
Merci. Professeur Mahindo, est-ce que vous pouvez répondre à l'honorable Nzekouye?
Oui, je voudrais bien lui répondre, j'ai hâte de lui répondre. En fait, je pense qu'il y a, je voudrais préciser une chose. J'ai pas dit que l'action politique ne consiste pas à changer les situations concrètes. Bien au contraire, j'ai dit plutôt que l'action politique consiste davantage en un travail sur les représentations du réel que sur des situations concrètes. Donc les hommes politiques agissent plus efficacement sur la représentation du réel que sur les changements des situations concrètes que les gens vivent. Et quand on voit effectivement ce qui se passe au Congo, c'est le cas. C'est le cas. Et quand on lit ce discours qui a été prononcé par notre président aux Nations Unies, ça montre bien ça. Ce qu'il dit, il est en décalage par rapport à la situation concrète. Le Congo n'est pas debout, je l'ai dit. Alors, pour revenir à quand on dit qu'on a construit des écoles,
vous pouvez conclure en même temps.
Alors, je veux bien. Quelle est la part du budget national quelle est la part du budget de l'éducation dans le budget national de notre pays? C'est moins d'1%. Alors, il ne faut pas qu'on nous dise que c'est une priorité nationale.
Merci.
Voyez-vous, donc, quand vous avez un budget d'à peine quelques milliards de dollars et que vous avez moins d'1% pour l'éducation, je veux bien croire que vous voulez en faire une priorité.
Merci, donc, professeur. Merci, professeur honorable Nzekouye. Conclusion.
Oui, je crois que, comme je l'ai dit dès le début, le président Kabila a fait un bon discours d'un grand panafricaniste et d'un grand chef d'État qui a mis son pays sur la marche du développement et les années à venir vont lui donner raison.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que l'émission de ce mardi, dans l'émission de ce mardi, nous allons revenir sur le discours du président Kabila, mais en prenant notamment l'aspect politique et bien d'autres. Donc, soyez au rendez-vous. Merci à Guy Maté, Berry Franklin Chaka, mise en onde Héritier Sidiakala et Patrick Assongwa, supervision Martin Sebujangwe, coordination et présentation à l'aéro Mouchinj. Au revoir.